maintenant ouvrir ce livre qui est pour nous la parole vivante de Dieu. Ce n'est pas du papier, ce n'est pas de l'encre, c'est une parole vivante. Mais nous demandons auparavant l'éclairage, comme d'habitude, la lumière du Saint-Esprit. Oui Seigneur, c'est vrai, ces paroles sont vivantes parce qu'elles agissent en nous. C'est comme la molécule de médicament, elle agit, elle change les choses. Cette parole, Seigneur, en nous produit toutes sortes de bonnes choses, à condition que d'abord nous sachions l'écouter, et puis bien sûr à condition que nous soyons ouverts à ton esprit, Seigneur. Il nous montre le chemin, il éclaire notre route, mais il nous appartient d'ouvrir les yeux, voir cette lumière. Aide-nous, Seigneur, à capter ton message ce matin. Amen.
Amen.
Alors ce matin, j'ai retenu le texte des traditionnellement, on vous propose un texte dans l'Ancien Testament, un dans l'Évangile et un dans les Épîtres. C'est celui des Épîtres. En l'occurrence, Philippiens chapitre 4 qui a retenu mon attention. Philippiens 4, on va lire à partir du verset 10. Philippiens 4, 10 à 13. 14. Alors voilà ce que Paul écrit pour terminer sa lettre aux Philippiens, aux habitants de Philippe. J'ai éprouvé une grande joie dans le Seigneur à voir refleurir votre intérêt pour moi. Cet intérêt, vous l'aviez bien, mais l'occasion vous manquait. Je ne dis pas cela en raison de mes besoins, car j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, à être dans l'abondance et être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Cependant, vous avez bien fait de prendre part à ma tribulation. La tribulation, c'est les persécutions, on va dire, les souffrances. Tribulation, c'est un mot qui commence sérieusement à dater. Mais bon, c'est un langage biblique. On ne se rend plus compte, mais on dit parfois des mots. Voilà. Si je vais à la gendarmerie pour me plaindre, mon voisin m'a fait subir des tribulations. Donc, regardez les gens. Bon. Alors, j'en ai choisi, cette fois-ci, choisi un autre, cette fois-ci dans l'Évangile, qui me semble en relation. Il s'agit de l'Évangile de Luc, au chapitre 12. Verset 13. Luc 12, 13. Quelqu'un de la foule dit à Jésus, « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Il répondit à cet homme, « Qui m'a établi sur vous pour être juge ou faire des partages ?» Puis il leur dit, « Gardez-vous attentivement de toute cupidité, car même dans l'abondance, la vie d'un homme ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit une parabole. La terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté. Il raisonnait en lui-même et disait, « Que ferais-je? Car je n'ai pas de place pour amasser mes récoltes. Ah, voici, dit-il, ce que je ferai. J'abattrai mes greniers, j'en bâtirai les plus grands, j'y amasserai tout mon blé et mes biens, et je dirai à mon âme, « Mon âme, tu as beaucoup de biens en réserve pour plusieurs années. Repose-toi, mange, bois, réjouis-toi. » Mais Dieu lui dit, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as préparé, à qui cela sera-t-il? Il en est ainsi de celui qui accumule des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. Alors, je crois que ces deux textes nous conduisent dans une méditation sur l'abondance, les richesses, les possessions, l'accumulation des biens terrestres, avec tout un enseignement, bien sûr. Je crois être autorisé à dire que le sentiment d'abondance est un sentiment agréable pour l'homme. on va être gentil, on va dire l'homme à l'état naturel, vous voyez, l'homme, l'être humain. Oui, l'être humain est attiré par cette sensation d'abondance. Pour quelle raison? Eh bien, peut-être parce que il y a le corollaire à ce sentiment, c'est celui, c'est la peur de manquer. C'est un très très vieux sentiment qui date depuis que l'homme existe. Il éprouve cette peur de manquer. Alors parfois il manque, bien sûr, de nourriture, il manque de liberté, il manque du strict nécessaire pour vivre. Mais vous voyez, on garde, je crois, profondément dans notre ADN, c'est comme ça qu'on dit les choses maintenant, dans nos chromosomes, dans notre être profond, on garde toujours cette peur de manquer. Je vous le prouve, regardez, à chaque fois qu'il se passe dans le monde quelque part, un événement qui pourrait laisser entendre qu'il y aurait des problèmes économiques, d'approvisionnement, de pétrole, de céréales, de choses. Vous voyez, alors, pourtant dans un pays comme le nôtre, la France, qui honnêtement ne connaît pas franchement, alors bien sûr il y a des problèmes, des gens qui ont des problèmes, mais qui ne connaît pas globalement des problèmes de manque. Nous avons tout, et plus que tout, n'est-ce pas? Eh bien vous voyez des milliers de gens à ce moment-là qui se précipitent dans les supermarchés pour faire des provisions. La dernière en date, c'est quand on a annoncé le Covid. Qu'est-ce que ça avait à voir? C'était une épidémie, alors grave bien sûr, une épidémie, un problème sanitaire. Bon, mais ça n'induisait pas un problème d'approvisionnement, de production des biens. Eh bien, vous voyez, des milliers de gens qui se sont effectivement précipités pour dévaliser les rayons des supermarchés, alors en particulier les pâtes, la farine, et puis le papier toilette. Je vous demande un peu. Au passage, je remarque que l'être humain se passe très bien de Dieu, mais il ne peut pas se passer de papier toilette. Oui, l'être humain est ainsi fait que il a peur de manquer. Et lorsqu'il est dans l'abondance, on pourrait dire, ah ben là, il est bon, ça va, il est satisfait, il est content, et bien, parce qu'à ce moment-là, il éprouve un nouveau sentiment, la peur de perdre l'abondance. Alors il faut accumuler encore plus, toujours plus, toujours plus. Et c'est ce que Jésus essaye de souligner dans cette parabole, le riche insensé. Hein. Je me suis posé cette question, en réalité, qu'est-ce que Jésus stigmatise dans l'attitude de cet homme fictif, puisque c'est une parabole, hein, c'est une petite histoire inventée par Jésus. Qu'est-ce qu'il dénonce dans l'attitude de cet homme? Est-ce que c'est le fait d'être riche? La richesse en tant que telle, est-ce qu'elle est dénoncée par Jésus? Je ne crois pas. Je ne crois pas comme si, par exemple, le fait d'être riche serait un péché. Non. Je ne vois nulle part dans l'Évangile que la richesse, attention, je dis bien la richesse en tant que telle, est dénoncée par l'Évangile. Par contre, alors, en revanche, Jésus ne s'est pas privé de stigmatiser l'attitude des riches, notamment vis-à-vis des pauvres. Vous connaissez l'histoire la parabole aussi du pauvre Lazare qui habitait à la porte d'un homme riche. Enfin, bon, vous voyez, où là vraiment l'attitude de cet homme riche est complètement dénoncée par Jésus. Alors, on se rappelle également l'enseignement que Jésus a donné à ses disciples à l'issue de sa rencontre avec le jeune homme riche. Il est dit dans le texte, Jésus le regarda et l'aima. Comme quoi, vous voyez, c'est pas parce qu'il est riche, non, ça ne pose pas de problème, Jésus a aimé cet homme. Mais l'enseignement qu'il a donné par la suite à ses disciples, puisqu'on voit que cet homme s'en va dans la tristesse, s'il ne peut pas se séparer, comme Jésus lui a préconisé, se séparer de sa fortune, il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. L'image est forte, hein, tout de même. Hein. Bon. Donc vous voyez, Jésus a effectivement mis le doigt sur ce qui fait mal, c'est l'attitude et le comportement des riches. J'ai trouvé par exemple dans l'épître de Paul, la première épître de Paul à Timothée, Paul relaie finalement ce jugement sur les riches. Ceux qui veulent, selon 1 Timothée 6, Verset 9. Ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège, dans une foule de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est la racine de tous les maux, et quelques-uns, pour s'y être adonnés, se sont égarés loin de la foi et se sont infligés à eux-mêmes bien des tourments. Et puis au verset 17, recommande aux riches du présent, il s'adresse à Timothée, hein, recommande-leur de ne pas être orgueilleux, de ne pas mettre leur espérance dans des richesses incertaines, mais de la mettre en Dieu qui nous donne tout avec abondance, on retrouve ce mot, abondance, pour que nous en jouissions. Qu'ils fassent le bien, qu'ils soient riches en œuvres bonnes, qu'ils aient de la libéralité, de la générosité, et qu'ils s'amassent ainsi un beau et solide trésor. Là, je vois que Paul a paraphrasé Jésus, puisque vous vous souvenez dans le texte de la parabole que nous avons lu, Jésus finit en disant « Il en est ainsi de celui qui accumule des trésors pour lui-même et qui n'est pas riche pour Dieu. » Il est question de trésors, d'abondance, de trésors, mais pas pour soi, mais pour Dieu. Alors, donc, revenons à la question, qu'est-ce que Jésus stigmatise dans l'attitude de cet homme, du riche insensé? Donc, ce n'est pas le fait d'être riche en lui-même. Cet homme se tourne vers lui-même, au moment où il constate sa fortune, il se tourne vers lui-même. D'ailleurs, il se parle à lui-même, « Réjouis-toi, mon âme hein !» Il se frotte les mains. « Mange, bois, fais la fête !» Donc, finalement, ce qu'on voit, et c'est ça cette attitude négative pour Jésus, c'est que cet homme trouve sa joie, son bonheur, sa confiance dans l'avenir. Il trouve sa sécurité dans son pognon. Excusez-moi le terme, mais c'est tellement négatif qu'il faut l'appeler comme ça, son pognon. Voilà le problème. Et il le dit à la fin. Il n'était pas riche pour Dieu, il était riche pour lui-même. Alors, qu'est-ce qui se passe pour lui? Eh bien, Dieu, je suis toujours dans la parabole, hein, Dieu lui dit, insensé, ça veut dire fou, mais attention, insensé dans la Bible, bon, ça veut dire, oui, qui n'a pas de sens, qui n'a pas de sagesse. C'est pas fou au sens psychiatrique du terme, hein, à mettre la camisole de force, c'est insensé, stupide. Cette nuit même, tu vas mourir, et toute ta fortune, tu vas l'amener dans ta tombe, qu'est-ce que tu vas en faire? C'est ce qu'il lui dit. Mais attention, important, je ne crois pas du tout qu'il s'agit là d'une punition ou d'un châtiment. Il se trouve que son heure était venue. Enfin, c'est comme ça que je l'interprète, hein, mais vous allez voir pourquoi c'est important par la suite. Son heure était venue, il l'ignorait, hein, ben, ça arrive, il y a des gens qui, la veille, sont en pleine forme et tout, puis dans la nuit, accident cardiaque, ça arrive. Hein, on a vécu ça avec notre ami en Roumanie, il s'est levé le matin pour aller faire le café, et puis il est resté sur le sol de la cuisine et sa femme l'a trouvé mort. Là, hein. Donc vous voyez, son heure était venue. Retenez bien ça. Et si maintenant on transformait cette parabole, c'est-à-dire que, alors je me permets, hein, je ne veux pas tordre la parole de Dieu, mais je veux dire, j'imagine si Jésus avait voulu la rencontrer non pas avec un homme négatif, insensé, mais avec un homme positif, c'est-à-dire plein de sagesse, comment il aurait raconté la chose? Et au début, c'est vrai, un homme riche, la terre d'un homme riche avait beaucoup rapporté, il raisonnait, je vais construire de nouveaux greniers, ben oui, tout ce grain, on ne va pas le laisser pourrir, hein, donc il construit des greniers plus grands. Jusque-là, pas de changement, pas de problème. Et puis, à partir de là, tout change. Cet homme, au lieu d'être tourné sur son plaisir, son bonheur, sa joie, il se tourne vers Dieu, et première chose qu'il fait, c'est tournant ses regards vers Dieu, c'est d'adorer, de louer, de rendre grâce à Dieu qui lui a donné cette récolte extraordinaire. Et c'est dans le monde biblique, c'est une notion très importante parce que l'homme laboure, moissonne, travaille, mais il est bien, comment dire, dans l'esprit de la Bible, c'est bien Dieu qui fait pousser la nourriture de la terre, c'est bien Dieu qui donne, vous voyez, le grain qui donne. Voilà. Alors, il se tourne vers Dieu et rend grâce. Et à partir de là, ça change tout, parce que certainement cet homme, je laisse libre cours à mon imagination, hein, mais à partir de là, oui, il va penser à partager, de dire tiens, il y a des pauvres, je vais pouvoir les aider, il va peut-être en restituer une partie de cette fortune à Dieu lui-même, l'offrande, le temple, etc., etc. Oui, attitude positive, il se rend compte qu'il est riche, avant tout riche pour Dieu. Mais, n'oublions pas, la nuit qui suit va mourir. Je dis, c'est le même homme, hein, mais au lieu d'être insensé, il est plein de sagesse. Alors vous allez me dire, oh, ouais, finalement, il n'en aura pas profité non plus. Eh bien si, justement, parce que Dieu lui dit, ah oui, mais mon ami, tu vas mourir cette nuit, enfin, cette nuit même, ton âme te sera redemandée, mais tout ce trésor, cette richesse, tu vas la retrouver là-haut, dans le royaume des cieux, et multiplié par 100, par 1000, parce que tu t'es amassé un trésor dans les cieux. Bon, pardon Seigneur, j'ai entendu ta parole, mais c'était pour, oui, pour comprendre le sens du message de Jésus. Faites-vous un trésor dans les cieux. Les trésors sur la terre, alors, il est dit dans une autre partie de la Bible, ça, ils prennent dans la moisissure, la rouille, tout ce qu'on accumule, et puis même si c'est des belles choses, des bonnes choses, et puis ben, ça finit par pourrir ça. Et c'est d'autant plus moisi ce qu'on accumule qu'on accumule pour soi. Soyons riches pour Dieu, pour les autres. Alors il y en a un qui a compris ça vraiment à la perfection, c'est l'apôtre Paul. Et c'est ce que nous avons lu, le premier texte que nous avons lu dans l'Épître aux Philippiens. Paul, effectivement, était en difficulté et les Philippiens lui ont envoyé de l'argent. Je ne sais pas exactement, je pense. C'est quelque chose qui se reproduit à plusieurs reprises. Alors Paul remercie les Philippiens d'avoir partagé, d'avoir pensé fraternellement à lui. Mais il dit, ce n'est pas en raison de mes besoins que je vous remercie, enfin, car j'ai appris à me contenter de l'état où je me trouve. Moi j'aime bien que Paul nous dise là, non pas je sais me contenter, mais j'ai appris à me contenter. Ça sous-entend que il y a du travail, hein. Ça c'est pas tout seul. Apprendre à se contenter dans l'état où on se trouve. Chacun peut s'examiner, est-ce que je suis capable de me contenter si demain je perds ce que j'ai? Et je veux dire vraiment matériellement, hein. Ma maison, hein. C'est ce qui arrive à des milliers d'hommes, à Gaza en ce moment, les gens perdent leur...
En Ukraine.
Oui, en Israël aussi. Ils perdent des enfants, ils perdent des conjoints, ils perdent des proches, ils perdent beaucoup de choses. Leur liberté, beaucoup de chrétiens, et ça. Est-ce qu'ils savent se contenter de l'état dans lequel ils se trouvent? On ne peut pas répondre à leur place, hein. Certainement pas. Et puis il dit, je sais vivre dans l'humiliation et je sais vivre dans l'abondance. Il le répète ça souvent. Oui, j'ai appris. Là aussi, après, il dit j'ai appris. D'abord, il dit je sais, mais j'ai appris à être rassasié et avoir faim, à être dans l'abondance et être dans la disette. J'ai un petit peu rigolé personnellement quand j'ai découvert le texte. Je me dis oui, alors Paul, ok, il est super quand il dit je sais vivre dans l'humiliation. Bravo, c'est un exemple. C'est l'exemple qui m'appelle, moi, à suivre cet exemple. Enfin, quand il dit « je sais vivre dans l'abondance », bon, oui, bah, lui aussi, hein, il n'est pas tout seul, hein, parce que moi, vous me donnez une fortune, vous me donnez tout ce qu'il faut, etc. Je saurais vivre dans l'abondance. Vous voyez, c'est un peu comme ça que j'ai pris. Je me suis dit, bon, il n'y a pas de quoi se vanter. Il n'y a pas de quoi se vanter. Bon, il ne se vante pas, d'ailleurs, mais... Bon, et puis, tout d'un coup, je me suis dit, non, c'est exactement le contraire. C'est exactement le contraire. Je vous le prouve. Il faut d'abord savoir qu'est-ce que Paul entend par « je sais vivre ». Moi, je sais que, enfin, je suis persuadé que Paul, quand il dit « je sais vivre », il sous-entend « je sais vivre en communion avec le Seigneur ». Alors maintenant, je vous pose une question, et il faut être honnête, chacun dans son cœur, on peut y répondre. Qu'est-ce qui est plus facile ? Qu'est-ce qui est plus difficile? Être en relation étroite avec le Seigneur quand tout va mal, quand on est en mauvaise santé, que vraiment c'est la catastrophe qui nous arrive une tuile, ou bien quand tout est parfait, tout le monde est en bonne santé, pas de problème, etc. honnêtement. Donc on peut répondre, on est beaucoup plus proche du Seigneur, comme par hasard, quand tout va mal. Ce qui veut dire que c'est beaucoup plus difficile, quand tout va bien dans nos vies, d'être proche du Seigneur, d'être, comment dire, dans une relation profonde. Pourquoi ? Parce que, bon, le Seigneur, tout va bien, mais tout va bien. Ah, puis quand la maladie arrive, ah, puis quand le deuil arrive, ah, puis quand le revers de fortune arrive. Là, on sait se mettre à genoux, mais Seigneur, viens à l'aide. Eh bien, voilà, Paul nous dit qu'il a appris à vivre cet état, cette relation étroite, profonde, avec le Christ, au cœur de l'abondance. C'est là qu'est l'exploit. Parce que de temps en temps, il a vécu des moments où il manquait de rien, il avait tout ce qu'il fallait. J'ai été vraiment personnellement touché par ce message. C'est pour ça que j'ai commencé par ce texte. C'est celui qui était proposé pour la lecture d'aujourd'hui, mais j'ai appris à être rassasié et avoir faim, peu m'importe. Être dans l'abondance ou être dans la disette, aucun problème, parce que je suis dans une situation comme dans l'autre, je suis toujours en relation étroite avec le Seigneur. Alors à partir de là, on comprend pourquoi il y a une certaine vertu, je ne sais pas trop le terme qu'il faut utiliser, mais je vais quand même dire une certaine vertu à être, non pas dans la misère forcément, mais à être sombre dans nos vies, c'est-à-dire loin de l'abondance. Parce que moi, à partir de cette réflexion, je demanderai une chose au Seigneur. Seigneur, permet que je ne sois jamais dans la surabondance, parce que ça risquerait de m'éloigner de toi. Permet également que je ne sois pas dans la misère, parce que ça pourrait aussi m'éloigner du Seigneur. Vous savez, des gens qui arrivent dans une telle situation de soit de pauvreté, soit d'affliction, hein, qui finissent par douter et rejeter Dieu. Et c'est pas bon non plus, bien sûr. Voilà. Et je voulais terminer avec un verset de. Et puis j'ai pas mis le marque-page. Le verset d'un psaume. Je vais le défigurer si j'essaye de m'en rappeler, mais. Bon, c'est pas grave. De toute façon, regardez bien dans la Bible. La Bible abonde de recommandations dans ce sens. Ne vous attachez pas aux richesses. Ne vous attachez pas. Ce n'est pas vos richesses qui vous apportent la sécurité. Ce n'est pas vos richesses qui vous apportent la confiance dans l'avenir. Et encore moins la joie et le bonheur de vivre. La joie et le bonheur de vivre sont en Christ. Ce qui fait que oui, des hommes et des femmes sur Terre, en vivant des situations épouvantables, emprisonnement, torture, etc., ont vécu, alors évidemment ils ont souffert, mais ils ont vécu cette joie profonde que personne n'a réussi à leur enlever. Je suis toujours frappé, moi je relis régulièrement des livres comme ceux du pasteur Wim Brandt, persécuté pour sa foi. C'était un juif chrétien, roumain, qui a été emprisonné. Bon, il a subi tout ce qu'on peut subir, faire subir à un homme inimaginable. Et lui, le jour où un officier lui a dit « Mais tiens, signe sur ce papier comme quoi tu renonces à prêcher l'Évangile », parce que c'était ça son problème, prêcher l'Évangile dans un pays communiste, dictature. « Signe, tu vas retrouver ta femme, ton gosse, on te trouve un bon chouette boulot, tu vas vivre dans l'opulence, dans l'abondance des biens terrestres. » Et Wim Brandt lui a répondu, oui, parce que l'officier lui disait, tu auras une belle vie, on t'offre une belle vie. Et Wim Brandt a répondu, mais ma vie, je ne pouvais pas rêver d'une vie plus belle que celle que j'ai là. Alors l'officier dit, comment tu peux dire ça? Ben oui, parce que c'est celle que Dieu m'a donnée. Vous voyez comment Dieu ferme la bouche des ennemis de la foi. Oui, je demande au Seigneur que nous sachions faire la part des choses. Les biens terrestres, c'est sympathique. Mais nous devons être de plus en plus attirés vers les biens célestes. Amassons-nous, mes frères et sœurs. Amassons-nous. Nous avons ce réflexe d'amasser. Eh bien oui, allons-y. Mais amassons-nous un trésor non pas sur terre, un trésor dans les cieux. Amen.